Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les six.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
Une conversation d'utilité publique entre un survivant du Bataclan, un avocat d'un accusé et une journaliste qui a couvert le procès du 13 novembre. Et bien durant les 10 mois de ce procès, ils se sont tout dit et ils en ont fait un livre que vous avez là.
Et nous nous sommes parlé, c'est signé Arthur Desnouveaux, Xavier Noguera et Charlotte Piré. Ils seront tous les trois dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story.
Ce soir, je vous parle de ces Russes qui tentent de fuir le pays après le discours de Vladimir Poutine hier, l'appel à la mobilisation.
Patrick, votre édito.
Je vais vous parler de machines utiles mais moches. C'est ce parc d'éoliennes, premier parc français qui a été inauguré cet après-midi par Emmanuel Macron au large de Saint-Nazaire.
Les éoliennes, c'est moche, mais c'est peut-être un mal pour un bien. On en parle ce soir avec notre invité, le tout nouveau patron du parti présidentiel, secrétaire général de Renaissance et député européen, Stéphane Séjourné. Ce soir, notre invité, bonsoir.
Bonsoir à vous tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Deux dossiers et un sujet, Le Monde et Complément d'enquête qui nous parle de notre eau du robinet. 20% des Français concernés. On va essayer de savoir ce que ça veut dire, ce qu'on trouve dans notre eau du robinet, ce qu'on peut s'y fier. On en parle tout à l'heure.
Pierre, dans votre œil.
Je vous présenterai Les Papillons Noirs, formidable série qui démarre tout à l'heure sur Arte. Vous allez en aimer, j'en suis sûr, la tension, la complexité, l'esthétique et le formidable casting.
Le grand footballeur international et surtout légende de l'Olympique de Marseille, Basile Boli, publie ses mémoires d'homme. OM en lettres capitales et en bleu, il est notre invité du dîner et ça a inspiré Sandrine Saroche pour une chanson enchantée.
Et oui, je vais vous parler effectivement de la bonne forme du football français.
Avec quel accent?
Ah, je ne sais, non, il n'y a pas d'accent.
Même pas un petit accent,
non, même
de
pas
la canebière, que je fais très très mal. Basile Boli, notre invité, on reçoit également Ahmed Silla et Bertrand Huskla qui sont jumeaux. Mais pas trop, une comédie qui nous a beaucoup plu, on sera ravis d'en parler avec eux, autour d'un dîner préparé par Jason Gouzi, notre chef de la semaine à la tête de Pantagruel. C'est un restaurant du 2e arrondissement de Paris. Bertrand Chamerois a un appétit pantagruélique ce soir ou pas?
J'ai un appétit pantagruélique, Babette, mais Jason est un petit peu flemmard aujourd'hui. Il m'a dit, bientôt la fin de la semaine, je ne vais pas trop me casser la tête, puisque ce soir, nous allons déguster, Jason.
Je vous ai fait des sandwichs.
Des sandwichs, ce soir, mais attention, pas n'importe quel sandwich.
Ouais, on va travailler du homard avec le sandwich. On va un peu complexifier avec une petite sauce de homard réduite. Ouais. Et on va assaisonner ça avec un peu de tagette. Tagette qu'on appelle aussi l'estragon mexicain.
Eh bien, merci, Jason. Et je remarque que tout le monde est parti pendant mon point cuisine. C'est assez vexant, Mathieu, Mohamed et Sandrine. Bonne émission.
Nous, on est restés. Faites comme si on n'existait pas, Bertrand. Je vous remercie. À tout à l'heure pour le dîner. Tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. La France a donc inauguré aujourd'hui ses premières éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire.
80 éoliennes posées sur le banc rocheux de Guérande à plus de 12 km des côtes de Loire-Atlantique, un premier parc très visible depuis le littoral avec des mâts de plus de 100 mètres et des pales de 75 mètres, mais qui devrait couvrir les besoins électriques de 700 000 foyers.
Bon, c'est un vieux projet.
Le programme français d'éolien en mer a été lancé sous Nicolas Sarkozy en 2009, le projet de Saint-Nazaire par le ministre Éric Besson en 2012. Il y a eu ensuite 7 années de recours contentieux et de batailles judiciaires purgées par le Conseil d'État en 2019, puis 3 ans de travaux, un projet à 2 milliards d'euros. Et nous voilà tout fiers avec ces 80 éoliennes, quand la Grande-Bretagne en a déjà érigé 2200 et que nos voisins installent actuellement des machines deux fois plus puissantes que celles de Saint-Nazaire parce que la technologie a progressé pendant que le projet prenait du retard.
Emmanuel Macron a dit cet après-midi qu'il fallait donc aller deux fois plus vite.
Oui, il était temps, mais c'est le sens effectivement du projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, en simplifiant les procédures administratives et en limitant la durée d'examen des recours déposés par les défenseurs de l'environnement, par les pêcheurs, par les riverains. Les consultations citoyennes, par exemple, seront regroupées par bloc, par façade façade maritime et non plus projet par projet.
Il y a beaucoup de projets en cours ?
16 projets en cours, dont 5 pilotes, notamment à Saint-Brieuc et Fécamp, déjà en cours de construction, et en Méditerranée, où on va expérimenter l'éolien flottant qui permet d'implanter des éoliennes en grande profondeur, sans couler de béton au fond de la mer, et forcément donc plus loin des côtes. La France est en retard pour l'implantation de ces engins, mais pas pour leur fabrication, c'est un sacré paradoxe. Nous possédons un tiers de l'outil industriel européen, avec deux usines au Havre, une à Saint-Nazaire et une à Cherbourg.
Est-ce que c'est la solution à nos problèmes d'énergie ?
Non, mais ça fait partie de la solution. La plupart des études et scénarios convergent pour dire qu'il n'y a aucune chance de respecter de près ou de loin les objectifs climatiques sans un développement à grande vitesse ou à marche forcée des énergies renouvelables, en plus du nucléaire, mais ça ne peut pas être la solution miracle, tout simplement parce que l'électricité ne se stocke pas, et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. En moyenne, les éoliennes en mer fonctionnent à 40% de leur puissance théorique. C'est mieux que les éoliennes terrestres, qui sont à 26%, mais par principe, cela reste intermittent et aléatoire. La Grande-Bretagne a vu, par exemple, l'an dernier, diminuer son électricité renouvelable, alors que sa capacité installée avait progressé. Par manque de vent, le climat se dérègle, mais le vent faiblit. C'est une tendance longue et assez lourde. Dans son dernier rapport, le GIEC envisage une baisse de la vitesse moyenne du vent sur l'Europe de 6 à 8% à l'horizon 2050.
Donc, il faudra s'habituer à avoir des éoliennes en bord de mer.
S'habituer ou se résoudre. En Loire-Atlantique, le parc éolien est distant de 12 km seulement de Bas-sur-Mer, 16 km de La Baule, 21 km de Noirmoutier. Autant dire qu'on le voit partout, par temps clair, et la nuit, en plus, ça clignote. Est-ce que c'est moche ? Est-ce que ça gâche la vue ? Je vous laisse répondre. Le parc de Saint-Nazaire s'est moqué des râleurs il y a quelques jours en diffusant une case de la Serpe d'Or. Vous vous souvenez de cet album d'Astérix où l'on voit Astérix maugrer face à un viaduc. Avec leur construction moderne, les Romains gâchent le paysage. Voilà, c'est bien envoyé. Mais la vérité, c'est que les éoliennes sont moches et même qu'elles sont officiellement moche.
Mais pourquoi ?
Parce que l'État s'est senti obligé d'indemniser les communes du littoral, une compensation versée pendant 25 ans à une dizaine de communes en Loire-Atlantique, plus de 4 millions d'euros par an pour préjudice esthétique en dédommagement de cette vue imprenable sur cette électricité du futur, mais un futur moche.
L'éolien, c'est moche, c'est pas la solution au miracle, mais va falloir s'y faire. Il vaut mieux avoir une vue gâchée que pas d'électricité ?
Patrick Cohen a à peu près résumé tous les enjeux, donc on en a besoin. On en a besoin et on a fait un choix européen, justement, mais surtout un choix français, d'avoir un mix énergétique et avoir à la fois les éoliennes, à la fois le nucléaire. Vous avez résumé les enjeux avec l'intermittence. Mmh. On en a besoin et je pense que toutes les infrastructures, y compris d'énergie renouvelable qui ont été construites dans les 20 dernières années, ont créé des polémiques. Par contre, effectivement, vu les enjeux énergétiques du moment, vu les contraintes énergétiques européennes, il va falloir justement développer ces énergies.
Parce qu'on se souvient qu'il y a deux ans, en février 2020, Emmanuel Macron, il reconnaissait que bon, il n'y avait pas de consensus sur l'éolien, que les gens ne veulent plus en voir près de chez eux, que leur paysage est dégradé et que donc, voilà, on n'insistait pas sur cette voie-là. Mais la donne a changé.
L'éolien, c'est comme le nucléaire, ça nous permet de produire sur notre territoire et garantir la souveraineté et la production énergétique en France. Et donc, ça a une valeur. D'autres pays européens, d'ailleurs, vous évoquez la Grande-Bretagne, mais aussi l'Allemagne, ont fait d'autres choix, c'est-à-dire d'être dépendants du gaz, par exemple, pour produire de l'électricité. On voit ça, où ça nous mène, d'ailleurs, dans le moment de crise qu'on vit avec l'Ukraine. Donc, effectivement, c'est une énergie qui va renforcer notre souveraineté aussi nationale dans la production, puisqu'elle est produite sur notre territoire. Et elle ne dépend effectivement du vent, avec aussi ces contradictions sur la baisse du vent et ce que vous évoquiez notamment sur les 6% dans les prochaines années. Mais en tout cas, ça nous permettra également d'être indépendant. Et indépendant énergétiquement, c'est aussi notre stratégie française sur l'énergie.
Ça n'empêchera pas que cet hiver, il faudra faire des économies d'énergie.
Oui, c'est la sobriété.
Miser sur le sens de sobriété des Français, mais qu'est-ce qu'on fait si les Français ne jouent pas le jeu ?
Je pense que tout le monde va jouer le jeu. Je pense qu'il y a quelques
éléments. Vous en êtes sûr ?
Oui, il y a quelques éléments que chacun fait d'ailleurs. Et en réalité, les enjeux sont importants. Il faut réduire de 10% la consommation. On peut le faire, ça s'est déjà fait. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que en Espagne, typiquement, où ils ont capé les prix du gaz. Il y a une consommation de gaz de la même manière, autant, et donc ils vont avoir des problèmes d'approvisionnement dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. En France, on a quand même alerté, il y a une prise de conscience. On parle de 19 degrés dans les logements, on parle de faire beaucoup plus attention sur l'utilisation de tout ce qui est électroménager et puis l'utilisation, y compris pour les entreprises. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Il ne faut pas penser que les Français ne se sentent pas concernés. Mais il fallait être pédagogique dans ces explications. Je pense que le gouvernement l'a plutôt bien fait.
Une crise de l'énergie accentuée par le chantage exercé par la Russie sur l'approvisionnement en gaz. Poutine, guerre et peur, affiche ce matin en une le quotidien Libération. Depuis hier, l'allocution du président russe provoque de nombreuses réactions. Cette nuit, c'est le président ukrainien qui s'est adressé en vidéo à l'Assemblée générale des Nations Unies.
A crime has been committed against Ukraine and we demand just punishment. Punishment for trying to steal our territory. Punishment for the murders of thousands of people. Punishment for tortures and humiliations of women and men. Punishment for the catastrophic turbulence that Russia provoked with its illegal war, and not only for us, Ukrainians, but for the whole world.
On entend Volodymyr Zelensky qui demande des punitions, mais aussi plus d'aide de la part des Occidentaux. Donc, quelles nouvelles sanctions contre la Russie? Et est-ce qu'il faut plus d'armes pour les Ukrainiens?
Je pense qu'on a été exemplaires en Européen. D'ailleurs, on est plutôt fiers d'être Européens dans cette séquence. On est restés unis pour la première fois. On a, y compris, trouvé un accord à 27 sur la question des
immigrés. Et cette unité, elle
ne
va pas se fissurer, là, justement?
Alors,
face aux intimidations russes qui montent d'un cran?
Alors, c'est fait pour. L'augmentation de la pression russe, la question des opinions publiques européennes fascine terriblement le Kremlin, puisque c'est une manière d'affaiblir les gouvernements en place et justement de diviser les Européens. Donc moi, le message qu'il faut passer d'abord, c'est restons unis. C'est ce qu'on fait au Parlement européen, c'est ce qu'on a construit en termes de dynamique européenne aussi, rester unis sur les sanctions et surtout ne pas céder à la peur. Et donc, il l'a refait plusieurs fois. Je veux dire, c'est pas nouveau,
le chantage nucléaire,
la question notamment des sanctions et de la réplique du Kremlin sur les Européens. Mais il faut que les opinions publiques ne vacillent pas. Pour ça, c'est notre responsabilité, celle des politiques, pour ça, et aussi des partis politiques. Et on voit bien que partout en Europe, il y a un certain nombre de partis politiques, notamment classés plutôt à l'extrême droite, qui, depuis quelques semaines... Je l'ai vu au Parlement européen. Jordan Bardella a été l'étendard de ça à la dernière session du Parlement européen à Bruxelles, qui met en cause les sanctions comme étant la cause de l'augmentation des prix, du malheur des Européens, etc. Tout ça, évidemment, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas briser le consensus européen sur ces questions-là. Et là-dessus, je pense qu'il y a un petit travail à faire d'ingérence. Il y a eu vos collègues, d'ailleurs, du Monde qui ont publié le chiffre de 300 millions d'euros d'argent mis et versé dans des partis politiques pour la propagande russe. C'est une question qu'il faut d'ailleurs qu'on se saisisse assez rapidement. Et surtout, garder unies les opinions. On a eu quelques chiffres qui étaient mauvais, je le dis. C'est-à-dire que l'acceptabilité des sanctions a chuté partout, dans tous les pays européens, de l'Est à l'Ouest. Et donc, souvent porté par les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et donc il faut qu'on arrive à lutter contre ça pour rester à la manœuvre avec, et surtout avoir de la pression, parce que les sanctions fonctionnent aujourd'hui au niveau du Kremlin.
Mais lutter contre ça, ça ne veut pas dire forcément répandre des mensonges, par exemple en niant le fait que les sanctions ont un réel effet et un réel impact sur les citoyens européens que nous sommes et les consommateurs d'énergie.
Bien sûr, le système de blocage des prix et le fait que l'Allemagne n'est plus approvisionnée notamment en gaz pour produire son électricité a des conséquences sur le marché énergétique. C'est une certitude. Mais après, politiquement, il ne faut pas se confondre entre l'agresseur et l'agressé. Et derrière, ce qui se joue, c'est aussi l'état de droit, notre modèle démocratique, l'ADN de l'Europe. Et donc, je pense qu'on a aussi un certain nombre d'éléments et d'arguments pour opposer aux partis qui uniquement voient la conséquence, mais pas le risque derrière qu'il peut y avoir démocratiquement.
Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois publiquement sur la réforme des retraites. C'était lors de son voyage de retour de New York.
Le Conseil d'orientation des retraites a dit il y a quelques jours que notre régime était en déficit. Nous ne pouvons pas ne pas là-dessus collectivement changer. Nous sommes l'un des pays d'Europe dont les âges sont les plus précoces. Et donc si on veut faire cela, on doit le faire. On doit le faire de manière transparente, de manière claire, de la manière la plus apaisée possible. Mais justement, parce que nous sommes en train de vivre un moment grave pour notre pays et notre continent, on ne peut pas avoir une politique sérieuse qui repose sur des mensonges. Et la vérité, c'est qu'il nous faut travailler plus et produire plus de richesses dans notre pays si nous voulons protéger, avoir une politique de justice sociale et défendre le modèle social français, sa force et son avenir.
C'est ce que dit le président, mais selon un récent sondage, plus d'un Français sur deux ne veut pas que le débat soit relancé. Et puis on va plus loin sur le contenu. 21% des Français sont favorables à un report favorables à un report de l'âge légal de la retraite, ce qui est très minoritaire.
Il y a la forme et le fond. Sur le fond, je pense que ça fait à peu près 6 ans que je débat des retraites dans plein de formats différents, soit sur les plateaux télé, soit avec les responsables politiques. Il y a eu 2 campagnes présidentielles sur ce sujet. Je pense qu'on connaît tous à peu près les données de l'équation des retraites. Elle est très simple. C'est un déficit, 14 milliards, 20 milliards en 2030. 3 options possibles. L'augmentation de la durée de travail et donc l'allongement de la durée de travail. L'augmentation des impôts et donc de la cotisation. Ou la baisse des pensions. Bon.
C'est ça qui est troublant. Voilà, aussi. Ça fait 10 ans que je débat, mais la solution qui nous a été présentée encore jusqu'il y a 2 ans, avec ce projet qui a été mort-né juste avant la première vague de Covid, et alors qu'il était en cours de vote à l'Assemblée nationale, offrait une réponse différente du problème que vous venez de résumer, que vous venez de poser.
Il répondait à une réponse différente parce que, y compris la donne, c'est-à-dire la structuration et le déficit qu'il y avait, n'étaient pas le même et les rapports du corps étaient différents. Bref.
Oui, Emmanuel Macron a aussi avoué que c'était un peu trop complexe.
En tout cas, sur le fond, je pense qu'on est assez légitime à proposer au moins au débat public maintenant une réforme des retraites. Dans ce postulat, il y aura aussi la question des carrières longues, de la pénibilité, des petites retraites qui étaient déjà en partie réglées au début du quinquennat. On a augmenté le minimum des retraites à 1 100 €. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites, mais on a toujours ce problème à régler. Donc après, il y a la forme. Et je vois bien la question qui se pose en ce moment. Il ne faut pas non plus que la forme occulte le fond. Et là-dessus,
la forme, c'est est-ce qu'il faut passer en force ? Est-ce qu'il faut aller vite ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit applicable dès le printemps 2023 ou l'été 2023 ?
Elle est en train d'occulter le fond en ce moment. Elle cristallise les colères.
Exactement. Et c'est pour ça que les sondages, je voulais revenir là-dessus, les sondages sont des fois trompeurs parce que les gens répondent sur, des fois, la forme et sur la peur des mobilisations sociales que ça pourrait engendrer ou des difficultés que ça pourrait engendrer, des conséquences, plutôt que sur la réforme en elle-même. Moi, je pense que les Français sont prêts à avoir ce débat-là, que ça soit d'ailleurs dans le PLFSS, par un texte dédié, ce sera à la Première ministre de l'évaluer, mais il y aura un débat parlementaire.
C'est le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Voilà, le projet
de financement de la Sécurité sociale. Il y aura un débat parlementaire, il y aura des votes, il y aura des expressions politiques sur le sujet. Ce que je ne veux pas qu'on occulte, c'est le fait que ce débat-là, il a quand même été en partie tranché, au moins dans la légitimité qu'a le gouvernement à proposer cette réforme. Le président de la République, il a été élu avec même 1 million de voix de plus au premier tour que la fois d'avant. Ce sujet nous a également fait perdre des parlementaires, je le dis sincèrement. C'est-à-dire qu'on a perdu, mais aussi parce qu'on s'est dit en responsabilité, on pense que ce projet doit être porté par le nouveau gouvernement et donc on le met dans le débat public. Je pense qu'à la fin, on arrivera à avoir un projet, un débat apaisé, un débat parlementaire. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui nous expliquent que le Parlement sert à rien, qu'ils ne veulent pas en discuter au Parlement. Donc on aura ce sujet. Je ne reprends pas, par ailleurs, le vocabulaire des oppositions. C'est-à-dire que le passage en force ne veut rien dire dans la configuration parlementaire.
Vous n'aurez donc pas recours au 49-3 ?
Il y a 49-3 et 49-3, c'est-à-dire que le 49-3 en majorité absolue n'est pas le même 49-3 qu'en majorité relative. Je sais que c'est très subtil, mais à la fin d'un 49-3, on redonne la main au Parlement, qui a le droit de faire tomber le gouvernement et de démissionner le gouvernement. Dans le contexte de majorité relative, il y a par définition une majorité pour faire des... pour faire battre le gouvernement. Et autant un 49-3 en majorité absolue, il sert à accélérer le processus. On l'a vécu pendant, d'ailleurs, le dernier mandat. Il y avait 10 000 amendements, le processus législatif tardé, il y avait de l'obstruction parlementaire. Ou il sert à tordre le bras à sa propre majorité. En majorité relative, l'instrument institutionnel et constitutionnel que nous offre la Constitution est très différent. Et ce 49-3-là, il sert justement à redonner la main aux oppositions à un moment donné et leur dire « ce texte-là, pour le gouvernement, est essentiel. Si vous considérez qu'il ne l'est pas pour l'Assemblée nationale, eh ben, le gouvernement démissionnera. »
Vous voulez donc, dire aussi que le gouvernement prendrait un risque
évidemment,
et le risque d'être destitué.
Et donc moi, je ne veux pas utiliser le vocabulaire des oppositions sur le passage en force. Je pense qu'il faut se battre, y compris politiquement, parce que je pense qu'il y a une différence... y compris de contexte politique dans lequel on est à l'Assemblée nationale sur ce 49-3.
Autre sujet, au-delà des événements d'actualité de ces derniers jours, est-ce que les statuts de Renaissance que vous dirigez maintenant ont prévu des procédures pour à la fois protéger ou accompagner, ne serait-ce qu'accompagner les femmes au sein de votre parti ?
Oui, tout à fait. Il y a une cellule, effectivement, d'alerte, d'accompagnement. Il est précisé quand même dans les statuts, d'ailleurs, contrairement à certains autres partis politiques, qu'elle ne se substitue pas, cette cellule, à la justice. Et c'est précisé noir sur blanc dans les statuts pour pas qu'il y ait de problématiques là-dessus. Mais oui, effectivement, je pense que c'est important d'avoir des gens qui puissent accompagner vers la justice s'il y avait des problèmes de ce type.
Adrien Quatennens, Julien Bayou, ils peuvent encore siéger à l'Assemblée nationale ?
Je fais vraiment une différence entre Adrien Quatennens et Julien Bayou. Adrien Quatennens, c'est un peu l'arroseur arrosé. Moi, franchement, pour la France insoumise, j'aurais évidemment compris d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur ce sujet dû à la proximité amicale, de compagnonnage politique. Ça nous arrive tous, en entreprise, dans les associations, dans le milieu familial. J'aurais compris. Problème de donner des leçons de morale à l'ensemble des partis politiques et d'être très dur avec les oppositions et très faible avec les siens est toujours quelque chose qui affaiblit les politiques, je le dis collectivement, la classe politique. Je fais une vraie différence avec Julien Bayou. J'ai écouté d'ailleurs sur votre plateau Sandrine Rousseau. Je suis sidéré par ce qu'elle a fait parce que si l'idée derrière c'est d'écarter des opposants internes ou des opposants externes en se faisant la justice soi-même.
Il y a forcément une idée derrière la tête.
Mais moi, je pose la question, mais il y a un état de droit en France. On ne peut pas venir sur un plateau télé. Moi, je ne connais pas Julien Bayou, et même si j'avais rencontré sa femme, ce n'est pas un procédé normal. On a un état de droit, on a des juges, on a des procédures, on a des procureurs, on a des avocats. Il y a le contradictoire. Et donc, moi, je suis très inquiet de la manière dont se comporte une partie de la classe politique aujourd'hui. C'est très dangereux parce que ce glissement-là vient à écarter des gens de responsabilité politique. On parle quand même du patron du Parti des Verts en France, qui est écarté aujourd'hui parce que Sandrine Rousseau a évoqué des choses, on ne sait pas quoi, on ne sait pas si c'est pénalement répréhensible. Moi, franchement, ça m'inquiète sur le glissement dans lequel on se trouve.
Vous restez avec nous, Stéphane Séjourné, parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre sur lesquels vous pouvez réagir. Mais on vous présente ce soir une manière peu commune de suivre un procès extraordinaire. Une journaliste, un avocat de la Défense et une victime racontent ensemble les attentats du 13 novembre 2015.
Charlotte Piré est journaliste justice pour France Inter. C'est son métier de raconter les procès. Elle fait d'ailleurs partie de ces journalistes capables de tweeter en direct les moments forts des audiences pour qu'on puisse les suivre comme si on était à l'intérieur de la salle. Mais au moment de couvrir le procès des attentats du 13 novembre, elle sait qu'elle ne pourra pas faire son travail comme les autres. Comment ne pas perdre pied ? Comment vider son sac les jours où l'émotion sera trop forte? Comment tenir dans la durée face à ce procès hors norme? Un procès dont on sait qu'il entrera dans l'histoire. Elle a donc l'idée de contacter deux interlocuteurs de premier plan. Arthur Desnouveau, survivant du Bataclan, et Xavier Noguera, avocat de Mohamed Amri, l'un des deux hommes qui, la nuit des attentats, a ramené Salah Abdeslam en Belgique.
Ouverture ce midi d'un procès historique, le procès des attentats du 13 novembre 2015.
Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes déjà au palais de justice de Paris?
Oui, je me trouve devant l'entrée dédiée à cette audience.
Franchement, il fait beau, on n'a pas de masque, il y a des touristes. Typiquement, c'est tout ce que les terroristes auraient voulu voir disparaître de Paris. J'y vais. C'est vraiment quand tu plonges d'une falaise, quoi.
Il faut écouter beaucoup les victimes. Quel que soit le côté de la barre, on est évidemment tous plongés dans une émotion folle. Il faut faire preuve d'une grande dignité face à ce qui va se passer.
Une victime, un avocat et une journaliste qui sont là au tout premier jour de ce procès. Trois regards, trois personnes qui, quel que soit leur rôle, savent qu'elles vont vivre un moment à part et qu'il va leur falloir un exutoire. La preuve, cela va donner 19 heures de conversation, 400 messages audio entre eux. Tout a été enregistré comme un journal de bord qui, peu à peu, va se transformer en journal intime. Parce que pendant 10 mois, ce n'est pas seulement une victime, un avocat et une journaliste qui vont converser, mais deux hommes et une femme qui vont partager bien plus que la charge d'un procès.
On est le 16 septembre, il est 16h24. J'ai ma deuxième fille, Diane, qui vient rejoindre Céleste depuis 3h. C'est vraiment le rayon de soleil dans ce mois de septembre qui était bien sombre jusque-là, qui va continuer à l'être.
Je suis au palais de justice, juste devant la salle d'audience. Et puis tout d'un coup, on a eu sur ce gros WhatsApp cette photo de la pitchoune d'Arthur qui était née juste 10 minutes avant. Mademoiselle Diane. Et cette photo m'a fait un bien fou. Elle m'a profondément émue et elle m'a fait du bien parce que c'était juste le rappel de la vie, en fait.
Je viens d'écouter le mémo d'Arthur. Je suis partagé entre l'horreur de la situation d'aujourd'hui et le bonheur de la situation parallèle. Et il n'y a pas mieux, en fait, comme exemple que la petite Diane qui naît dans les cendres de notre humanité, en fait.
Charlotte Piret, Arthur Desnouveau, Xavier Nogueras, bonsoir à tous les trois. Merci de votre présence ce soir pour parler de cette expérience inédite, cette conversation à trois voix qui est devenue un podcast et désormais un livre, mais qui est d'abord une soupape. Elle est née d'un besoin, mettre des mots sur des émotions vécues dans la salle d'audience et qui étaient parfois inénarrables. Charlotte Piret.
En fait, l'idée, elle naît d'un autre procès, qui est celui du procès des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercacher, que j'avais suivi en intégralité pour France Inter avec ma consoeur Sophie Parmentier, et ça avait déjà été très difficile. Et moi, j'en suis pas sortie complètement indemne. Donc effectivement, l'idée du 13 novembre avec ces 10 mois, ces 350 témoignages de partie civile durant plus de 5 semaines, ça me paraissait une montagne impossible à gravir. Et je me suis dit que ça serait une charge probablement moins lourde si elle était partagée de temps en temps. Et donc c'est comme ça qu'est née cette idée-là.
Pendant ce procès, vous avez fait appel à la cellule psychologique la première fois qu'une telle structure s'adressait aussi aux journalistes?
Oui, c'est la première fois qu'elle a été mise en place pour tous les professionnels, d'ailleurs pas uniquement les journalistes, mais également les greffiers, les magistrats, toutes les personnes qui étaient là dans le cadre de leur travail. Et effectivement, moi j'y ai fait appel une fois, je ne suis pas la seule. Il y a un besoin de vider son sac, en fait, tout simplement.
Arthur Desnouveau, vous avez cette phrase: « J'ai l'impression d'accueillir d'autres gens dans mon cauchemar ». Le fait que d'autres personnes, dont c'est le métier, qui assistent à ces débats-là, entendent dans le détail ce que vous avez vécu, ça vous a inquiété pour eux?
Bien sûr, ça m'inquiète pour eux et je vous avoue que je sais que Charlotte suit encore le procès de l'attentat de Nice en ce moment et je trouve ça assez vertigineux. Ouais. Ça fait beaucoup de bien quand on est victime de se dire que finalement on n'est pas des parias et qu'il y a des gens qui sont capables d'entendre ce qu'on a vécu. Ça fait du bien, ça nous remet dans la société. Mais c'est aussi assez inquiétant parce que je sais le temps que j'ai mis à m'en remettre et je sais le temps que les autres ont mis à s'en remettre.
Xavier Noguera, vous êtes avocat de la Défense, mais vous avez pleuré. Vous et vos confrères sur les bancs de la Défense, vous qui défendiez les accusés lorsque vous avez entendu les premiers témoignages des victimes du Bataclan?
Oui, ça n'était pas arrivé, en fait, un procès, alors, d'abord de cette ampleur-là, mais on a eu 5 semaines de témoignages. Donc on est assis sur les bancs de la Défense et on les voit défiler, venir à la barre, avec beaucoup de dignité, beaucoup de colère aussi, parfois. Vous racontez des récits qui sont des récits atroces, qui sont bouleversants. Et donc, nécessairement, toute personne normalement constituée sort un petit peu aussi de la carapace qui est la sienne, oublie un petit peu la robe et l'hermine qu'il porte, et simplement constate, écoute, et avec humanité ce qu'il se passe. Donc oui, il y a eu des larmes, je ne sais pas pour tous mes confrères, mais oui, en tout cas, on a été, ça a été très, très, très dur. Très, très dur, et ça nous a, en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup questionné aussi sur la place de l'avocat de la défense, sur son rôle, sur ce cloisonnement nécessaire dans les procès classiques qui sont beaucoup plus courts, et sur cette ouverture nécessaire aussi, je pense, et ses mains tendues envers les avocats des victimes, mais envers les victimes elles-mêmes. Cette expérience nous a permis aussi d'ouvrir des choses qui n'étaient pas forcément ouvertes, qui étaient un peu fermées jusqu'à présent.
Bah oui, pendant ce procès, il y a eu des moments de tension, notamment ce jour où Salah Abdeslam a une attitude particulièrement provocatrice et suscite la colère des parties civiles qui se sont mis à applaudir. Des applaudissements, il faut le préciser, qui étaient ironiques, des applaudissements de colère. S'en est suivie une autre scène marquante, les avocats de la défense, dont vous, vous avez quitté la salle d'audience, donc audience suspendue. Et ça, c'est un incident qui vous avait mis très, très en colère, Arthur.
La défense a enfin réussi à faire jouer son statut de victime jusqu'au bout, en quittant indigné l'audience. Je crois que quand l'indécence atteint ce niveau-là, il est temps de se regarder dans un miroir.
Je comprends vos colères respectives. Exprimez-les juste ici, comme ça on en parle.
À ce procès, on est vraiment traités comme des citoyens de seconde zone. Tout ça, c'est un peu du théâtre pour vous tous. Alors la comédia dell'arte, en fait, on l'emmerde.
Le président prend parti pour les avocats de partie civile ou les avocats généraux et systématiquement tacle la défense. Ça n'a de cesse de nous agacer. On ne s'est pas levé pour provoquer les victimes, on s'est levé parce que cette parole-là du président était inadmissible.
Xavier, je voulais te remercier pour ton message. Et je pense d'ailleurs que ce serait bien que plus de gens des parties différentes discutent.
Alors Xavier, vous avez fini par expliquer votre vision, mais vous dites que vous avez songé à arrêter même cette conversation entre les trois. Mais à la fin, il y a Arthur qui finalement comprend, revire, voit votre vision. Et là, on se dit que cette conversation, elle a été indispensable pour vous tous.
C'est un exercice un petit peu inédit. Ce n'est pas naturel d'aller de passer le procès à discuter avec un représentant des victimes, une victime lui-même qui a vécu le cauchemar. Et donc, ce qui me poussait au départ, c'était aussi de pouvoir injecter du didactique là-dedans, c'est pouvoir leur expliquer ce qui est un peu quelque chose auquel ils sont un peu hermétiques. C'est comment fonctionne un procès. Est-ce que le fait que l'avocat ne soit pas simplement là pour faire des coups de manche, il y a des problématiques de procédure. Et sur cet exemple-là, qui a été l'événement le plus marquant, qui a en tout cas créé beaucoup de tensions dans ce procès. C'était important qu'on puisse s'expliquer, expliquer quel a été le positionnement de la défense, expliquer pourquoi on s'est tous levés d'une traite pour protéger l'un des nôtres, parce qu'il y a un vrai corporatisme aussi, et une vraie solidarité sur les bancs de la défense. On ne défend pas les mêmes personnes et pas de la même manière, mais on ne peut pas se laisser marcher dessus. Et quand on se l'explique en réalité, eh bien les choses sont comprises et les mains se tendent encore plus et se croisent. C'est intéressant.
Vous vous êtes dit que j'aurais pu devenir avocat de la défense, Arthur ?
En tout cas, je comprends pourquoi il faut des avocats de la défense. Je le comprenais de manière très théorique avant, comprenant qu'ils défendent notre démocratie, qu'ils s'assurent que tout accusé a le droit d'être défendu dans nos règles de droit, ça je le comprends. Et ensuite, je comprends ce côté un peu seul contre tous qu'ils ont. Et je comprends leur idée de faire jaillir une part d'humanité chez des gens chez qui on n'en voit pas. Et donc, évidemment, moi, c'était mon procès et ma relation avec ces accusés-là était très spécifique. Je comprends comment on peut être avocat de la défense dans un autre procès de terrorisme, en tout cas.
Y compris à vous interroger sur le sens des peines, Arthur. Quelle peine, quel jugement serait à la hauteur des crimes commis ? Vous espériez la peine la plus lourde pendant tout le procès, mais au moment du verdict, vous en venez à vous dire qu'une peine de prison incompressible, c'est presque plus inhumain que la peine de mort.
C'est une réflexion qui est pas aboutie chez moi, pour le coup, et je veux garder une certaine candeur. Je veux pas trop aller dans le professionnalisme de la justice. Moi, je voulais pas forcément la peine la plus lourde, mais je voulais la plus juste. Et ce qui est dur, et on le voit encore plus dans le procès de l'attentat de Nice en ce moment, c'est que les gens dans le box ne sont pas forcément ceux qui ont commis exactement ces faits-là. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien que ce soit un jury de professionnels qui juge. Ça évite l'impressionnisme de dire les faits sont tellement horribles que tout le box doit prendre le maximum. Ensuite, effectivement, et je décorrèle ça complètement de l'accusé en question qu'il a reçu, la peine de prison avec une peine de sûreté incompressible, c'est quand même dur. Alors on sait qu'en réalité, le verrou peut sauter au bout de 30 ans et ainsi de suite. Mais c'est aussi ça, le mérite d'un procès qui dure 10 mois, c'est qu'on a le temps de voir les gens, de voir les accusés, de voir leur défense, et de mieux se comprendre. On n'est pas dans quelque chose de pressé.
Et dans le podcast, comme dans le bouquin, il y a des éclairages aussi sur des choses plus personnelles de vos métiers. Et je pense à vous, maître. Vous racontez la difficulté de préparer, de mettre au point votre plaidoirie, pour toutes les raisons, y compris celle qu'Arthur vient d'exposer. Vous racontez l'angoisse de la page blanche, étape par étape, blocage après blocage. Vous racontez à votre groupe, et arrive ce jour où vous avez les idées claires, une sorte de libération, et vous la partagez.
Je me suis rendu compte que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas cuisiné, et je me suis réveillé ce matin avec une forte envie de cuisiner. Il y a un truc qui vient de se débloquer dans mon putain de cerveau. Je crois que ça y est, j'ai ma plaide, les amis. Je l'ai. Elle est là, la plaide. Elle est dans mon cerveau. Elle est architecturée. Et donc, du coup, ça va beaucoup mieux. Ah, oh, putain, que ça va mieux. Ah là 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 là, des semaines à galérer.
Je peux savoir ce que vous avez cuisiné?
Du veau aux olives. Mais ça fait très bizarre de le réécouter, et puis surtout en direct.
J'imagine.
Mais ce que ça dit, c'est que cet exercice-là n'avait pas vocation au tout départ à être rendu public. Et donc, en fait,
je parlais d'expérience professionnelle, c'est ça.
On s'est un peu lâché, effectivement, ça nous a fait du bien. Et là, je reconnais qu'effectivement, j'étais un peu euphorique. Mais,
Et Arthur, vous étiez agacé qu'on cherche à humaniser les accusés au début du procès, et vous avez apprécié, dites-vous, la plaidoirie de Xavier Nogueras.
Non.
Ah, je croyais qu'on allait écouter un extrait.
Non.
Si, moi j'ai trouvé ça très bien. Quand Xavier parle, en fait, j'ai entendu quelqu'un qui nous rappelait, qui défendait un être humain. Et ça peut paraître extrêmement simple de le dire. Quand on est dans une salle où il y a 550 personnes, que les accusés sont dans un box en verre, ils ont déjà l'air d'être coupables. Parce qu'ils sont dans ce box, entourés de gendarmes. Et juste, Xavier a réussi à réinsuffler une part d'humanité qui était, oui, ce type-là serait peut-être pas mon ami, mais ça fait partie des gens qu'on peut croiser dans la rue, dans le métro. Et donc, il faut aussi penser à ça et essayer de mettre en perspective toutes ces choses-là. Et c'était la grande force de la plaidoirie de Xavier.
Quand on vous demande, Charlotte Pirès, si ce procès vous a changé, vous dites, oui, j'y ai laissé quelques plumes. Là, vous couvrez à nouveau un procès d'un attentat terroriste. Vous allez encore y laisser quelques plumes, ou alors ces conversations, ou alors vous avez renouvelé cette expérience avec d'autres interlocuteurs.
Et c'est vous qui avez choisi, vous n'étiez pas obligée pour Nice.
Non, je suis pas obligée, moi c'est mon métier en fait, tout simplement. Et souvent ce que je réponds, effectivement, c'était difficile, ça l'a été pour Xavier et pour tous les professionnels. On était professionnels et on a choisi d'être là. Je pense qu'il faut toujours bien recadrer les choses. On n'a pas été victime de ces attentats-là. Et le cadre professionnel, c'est un cadre qui est extrêmement protecteur. Alors je vous dis pas que c'est simple tous les jours. Aujourd'hui, à l'audience de Nice, c'était particulièrement émouvant et lourd une nouvelle fois. J'ai pas renouvelé cette expérience parce que je crois qu'elle a marché une fois, et elle a marché parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre nous trois et qui n'était pas forcément évident au départ d'ailleurs. Et donc voilà, c'était sans doute un one shot, si on peut dire. Maintenant, moi, c'est mon travail, je trouverai d'autres exutoires et tout ira bien, il n'y a pas de souci, et je suis ravie de le faire en plus.
Ce podcast est absolument passionnant. Ouais. 13 novembre, 3 voix pour un procès, c'est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis, il y a donc le livre désormais, et nous nous sommes parlé, et nous nous sommes tant aimés, presque aussi, et tant aidés pendant ce procès. C'est un dialogue entre un survivant, un avocat de la défense et une journaliste aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup
à
tous les trois d'être venus partager votre expérience sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, de nombreux Russes tente de fuir depuis l'annonce hier de Vladimir Poutine de faire appel à des réservistes pour combattre en Ukraine.
Oui, la mobilisation de 300 000 réservistes russes annoncée par Vladimir Poutine hier est d'ores et déjà effective. Un décret d'application immédiate pour les contremaîtres, sous-officiers et aspirants de moins de 35 ans, ainsi que pour les officiers de moins de 45 ans. Dès ce matin, on a pu assister au départ des premiers appelés devant les femmes et les enfants et leurs larmes. Allez. Pour échapper à cette mobilisation, des milliers de personnes ont tenté de fuir le pays dans l'urgence, majoritairement vers la Mongolie, la Géorgie, la Finlande, mais aussi vers la Turquie et l'Arménie. Les vols directs de Moscou à Istanbul en Turquie et à Erevan en Arménie, deux pays qui autorisent les Russes à entrer sans visa, étaient aussi complets mercredi selon les données d'Aviasales. Regardez d'ailleurs l'important flux d'avions quittant la Russie, filmé hier par l'application de suivi aérien Flight Radar 24. Un groupe de hackers aurait également publié, vous la découvrez à l'écran, la liste des 300 000 noms mobilisables pour permettre aux familles de préparer leur exil. Écoutez la peur ressentie par ce jeune homme de 30 ans qui espérait hier réussir à prendre un avion pour fuir son pays.
C'est évident, je pars parce que je ne suis pas fou et que je n'ai pas envie de mourir. Voilà, c'est simple, je suis actuellement à l'aéroport et j'attends mon avion qui part dans 2 heures. Et je n'espère qu'une chose, c'est que je pourrai le prendre. Pour tout vous dire, je me sens mal maintenant, je suis très stressé en fait. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai l'impression qu'on veut me forcer à mourir pour une cause à laquelle je ne crois pas, une cause dont je n'ai rien à faire.
Le Kremlin a refusé de préciser si les frontières seraient fermées aux personnes visées par l'ordre de mobilisation et a demandé à la population de faire preuve de patience en attendant que la loi soit clarifiée. Mais regardez bien cette vidéo qui a été adressée à la rédaction de C'est à vous par l'ONG Goulagou.net qui dénonce depuis des années les abus du pouvoir russe dans l'extrême-orient du pays. Des contrôles routiers sont organisés pour ne pas laisser filer des hommes mobilisables.
Находятся в запасе, насколько я знаю, да. И... Но...
А вы не в запасе?
А кто вам сказал, что я в запасе?
А у вас военного билета нету?
И что? Что у меня есть?
Так, логика обычная, я же знаю, что человек с военным билетом находится в запасе.
Да, можете и мне рассказывать слово... хоть что, ну, я короче, говорю...
Вы отказываетесь или соглашаетесь?
Отказываюсь в чем, вы мне объясните,
вот
в чем?
Вот повестку, я хочу выдвинуть повестку для направления военкомата, вы отказываете?
En Finlande, les gardes-frontières ont expliqué faire face à une activité importante. Des bouchons ont été remarqués à Valima, l'un des 9 points frontières entre la Finlande et la Russie. Mais c'est surtout en Géorgie que la situation est impressionnante. Des centaines de voitures attendent la possibilité de quitter le territoire russe. Régis Janté est le correspondant de la radio RFI à Tbilissi, en Géorgie. Il nous décrit une situation inédite.
C'est une sorte de vent de panique qu'on a vu souffler dès ce mercredi soir à l'unique poste frontière d'ailleurs entre la Russie et la Géorgie, celui de Lars. Cette fois-ci, il y avait des centaines de voitures de Russes qui venaient se réfugier cette fois, des jeunes notamment, et qui expliquaient aux médias locaux qu'ils venaient parce qu'ils ne comprennent pas cette guerre, qu'ils ne veulent pas aller se faire tuer en Ukraine pour des raisons totalement absurdes qui sont celles de la guerre de M. Poutine et non pas du peuple russe.
Stéphane Séjourné, la France est-elle prête, comme l'a annoncé l'Allemagne, aujourd'hui à accueillir des déserteurs russes, des hommes mobilisés ?
C'est vrai qu'on a coupé tous les visas, et c'est une décision d'ailleurs européenne qui fait partie des sanctions. Et donc qui vise aussi à faire vaciller, puisque l'Union européenne a aussi une stratégie, à faire vaciller l'opinion publique en Russie. Alors moi, je suis très pragmatique. Je pense que s'il y a des gens qui sont mis en danger et qui, effectivement, ont besoin de rentrer dans les critères d'asile qu'on pourrait éventuellement trouver, et s'il y a un accord européen, s'il y a un accord européen qui se profile, je pense qu'il faut qu'on regarde les choses. Après, je pense qu'il faut qu'on le fasse au niveau européen. Il faut qu'on le fasse à 27, parce que c'est aussi l'efficacité des sanctions. C'est aussi, on voit bien, après, l'efficacité des sanctions économiques qui fait vaciller l'économie russe, là, l'efficacité aussi des sanctions qu'on a prises sur les déplacements en Europe des ressortissants russes, qui fait vaciller aussi les opinions publiques russes et la société. Donc il y a, je pense, peut-être un arbitrage à prendre sur des gens qui seraient particulièrement en danger, et je pense qu'il ne faut pas que notre tradition politique en Europe, c'est l'accueil, il faut le voir, mais par contre, il faut qu'on réussisse à le traiter au niveau européen, à 27 pour éviter d'avoir une segmentation et des politiques différentes pays par pays.
Merci beaucoup. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette. Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, des millions de Français boiraient une eau du robinet non conforme.
Oui, on va surtout essayer de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, non conforme. Mmh. Ce n'est pas non potable, mais on parle d'une eau du robinet chargée en résidus de pesticides au-delà des limites de qualité. On parle de 20% de Français concernés tout de même. Et en réalité, il y a deux dossiers, deux méthodes de calcul qui aboutissent sensiblement au même résultat. D'abord, il y a un dossier qu'on lit dans Le Monde aujourd'hui, des analyses de données des agences régionales de santé qui permettent d'affirmer que 12 millions de personnes sont exposées à cette eau non conforme aux critères de qualité. Le Nord, le Nord-Ouest, vous le voyez en particulier. 20% des Français, c'est plus de 3 fois plus qu'en 2020. C'est là que les chiffres ne sont pas forcément comparables. Il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont recherchées désormais et qui ne l'étaient pas auparavant. Deuxième dossier, celui de nos confrères de complément d'enquête qui sera diffusé ce soir sur France 2 avec une illustration concrète. Dans certaines communes, on ne peut tout simplement plus boire l'eau du robinet du tout et les habitants, en particulier les personnes fragiles, se tournent vers l'eau en bouteille.
Et c'est compliqué de respecter strictement cette interdiction de consommer l'eau.
Bah oui, bah évidemment. L'eau t'en boit tous les jours, t'en sers pour tout.
Les bouteilles d'eau achetées au supermarché, sa compagne Léa les réserve en priorité à leur bébé de 8 mois.
Il faut toujours, en fait, qu'on anticipe. S'il y en reste un tout petit peu, on le garde forcément pour acheter, on fait attention. Et puis nous, du coup, on boit de l'eau, du robinet.
Je ne fais pas le détail, c'est assez indigeste quand on regarde dans le détail des molécules, pas plus que le détail des communes. Il y a le site de France Info qui vous propose un moteur de recherche avec votre code postal. Attention, dans la très grande majorité des cas, ça ne veut pas dire que l'eau est toxique, qu'il ne faut pas la boire. Mais il y a des molécules pour lesquelles les seuils d'alerte n'existent même pas. Pas encore, peut-être. Alors l'administration a inventé le terme « valeur sanitaire transitoire » pour ne pas avoir à couper l'eau quand on ne sait pas.
Dans le cas du chloridazone desphényl, le principe de précaution n'est plus strictement appliqué. L'ARS des Hauts-de-France a tout bonnement défini une nouvelle limite, la valeur de gestion provisoire. Elle est arrêtée à 44,4 microgrammes par litre, largement au-dessus des dépassements constatés lors des contrôles, permettant ainsi de pouvoir continuer à boire l'eau.
On a la moitié des forages et des réseaux qui sont contaminés. Vous imaginez que si à un moment on applique strictement sensus la réglementation, on a à peu près la moitié de la population qui n'a plus d'eau potable.
Ce qui ressort des différentes enquêtes, c'est que le problème vient de résidus de pesticides, les résidus de l'exploitation agricole qui se retrouvent au final dans notre robinet. Écoutez, ce vigneron, il est en Bourgogne, lui a choisi d'arrêter d'utiliser ses produits.
Je suis dans ma vigne là. Eh ben, viens chercher les clés, je les redonne, moi je m'en fous, tu sais. Tu te démerderas avec. Voilà. Bon, bah, je suis viré.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est le maire qui m'a viré.
Viré de quoi?
Et bah, de mon poste de fontainier.
Mais pourquoi?
Parce qu'il ne voulait pas que je vous montre ce que je vous ai montré. Moi, en faisant plus d'herbicides, je suis obligé de labourer entre 3 et 5 fois. C'est plus de travail, c'est plus de main-d'œuvre et c'est plus de temps. C'est moins rentable. Mais c'est une autre façon de voir la terre.
Les différentes enquêtes sont à lire dans Le Monde, notamment, et bien sûr, vous avez vu des extraits du complément d'enquête qui sera diffusé à 23h sur France 2 ce soir.
Près de 3 semaines après la rentrée scolaire, on reparle des pénuries de profs.
Avec une mobilisation de parents qui veulent rappeler le ministre de l'Éducation nationale à ses engagements, rappelez-vous de Pape Ndiaye, juste avant le retour en classe.
En dépit des difficultés, nous sommes à ce stade, dans une situation comparable à l'année dernière. Oui, nous avons des difficultés de recrutement, mais nous y faisons face pour la rentrée à venir, tout en préparant des réponses pérennes.
Il manque bien des profs, mais c'est bien l'année dernière qui va nous intéresser. Parce qu'en région parisienne, des parents d'élèves s'organisent en collectif derrière le hashtag « On veut des profs ». Précisément, ils ne veulent pas revivre la même chose que l'an dernier. Alors ce matin, ces parents ont déposé 127 demandes d'indemnisation au ministère de l'Éducation nationale. J'ai bien dit des demandes d'indemnisation qui sont calculées sur l'année scolaire dernière. 188 000 euros au total, 10 euros par heure de cours non dispensés au collège-lycée, 50 euros pour le primaire. Vous allez comprendre, dans la voix de leur avocate, que Louis Amar et Camille Schmitt ont rencontré, vous allez comprendre que c'est surtout une démarche symbolique.
L'objectif est de faire réagir l'État en traitant plusieurs milliers de dossiers. Donc ce sont des requêtes qui sont indemnitaires, on va quand même demander de l'argent. Mais évidemment, les parents n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent avec cette action. La demande est vraiment symbolique. L'objectif est de faire réagir l'État avec une plainte qui est collective et nationale. C'est un problème qui est chronique et qui dure depuis plusieurs années et nous n'avons aucune réponse. C'est-à-dire que le rectorat répond, c'est pas la responsabilité de l'État, ou minimise le problème en disant par exemple que finalement le niveau des élèves n'est pas si mauvais, donc en fait c'est peut-être pas ça vraiment le problème. L'éducation est une priorité nationale, c'est inscrit dans le code de l'éducation. L'État sera nécessairement condamné en réalité.
L'idée, c'est donc de mettre l'éducation nationale devant ses responsabilités. Nous avons contacté le rectorat qui n'a pas souhaité répondre à nos journalistes. Pour certaines familles, ce sont des enfants à qui il manque des heures de cours, jusqu'à un tiers de l'enseignement. Et pour les parents des plus jeunes en particulier, c'était une sacrée organisation. Écoutez cette maman, son fils collégien a manqué 114 heures de cours l'an dernier.
Si le professeur n'était pas là de 8h à 9h ou de 9h à 10h, eh ben, il restait en permanence. Et certains élèves sortaient de l'école, puisqu'il y a un petit parc à côté où ils se réunissent tous quand il n'y a pas de cours. Et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. J'étais obligée, pour son bien, pour son avenir, qu'il puisse être en internat privé, que je paye en plus de nos poches pour qu'il puisse avoir une scolarité normale. Ça met en cause en fait l'éducation de nos enfants qui sont vraiment au jour d'aujourd'hui ils ont un niveau lamentable. Ils ont un niveau de CM2 pour des élèves de 5e.
Stéphane, ces journées, cette femme qui doit se tourner vers le privé, on a parlé de beaucoup de pénurie de personnel dans nombre de services publics, mais là, ça veut dire très concrètement qu'on n'arrive plus à assurer le service éducation nationale dans ce pays.
Ouais, vous dites 114 heures de cours, etc. C'est pas acceptable. Il y a des problèmes de vocation aussi chez les professeurs. On a fait énormément d'efforts pour rendre le job plus attractif. Il va y avoir des revalorisations, il y en a déjà eu, il va y en avoir d'autres y compris, mais il faudra aussi augmenter le statut et puis l'attractivité de ces jobs qui sont essentiels pour l'avenir des enfants. Je ne connais pas particulièrement tous les détails des cas particuliers que vous avez évoqués, mais effectivement, on doit être dans la capacité de pouvoir scolariser normalement les élèves. On a fait énormément d'efforts sur la réduction du nombre de classes, avec des efforts ciblés, notamment sur les quartiers prioritaires et sur les élèves qui étaient le plus en difficulté. Mais il y a toujours un certain nombre de problèmes. Je crois que le ministre de l'Éducation l'a dit, c'est un sujet qui doit être réglé de manière structurelle. Et donc, il y a un petit travail à faire là-dessus, j'en conviens.
Dans le conflit qui oppose TF1 à Canal+, le tribunal de commerce a tranché.
Et il autorise Canal+ à ne pas rétablir la diffusion de TF1 par satellite. C'est une procédure d'urgence en référé qui avait été lancée par TF1. Les deux groupes sont en désaccord profond depuis le 2 septembre. Canal a arrêté de diffuser toutes les chaînes du groupe TF1 depuis l'échec de négociations sur le contrat qui lie les chaînes TF1 d'un côté, je le rappelle, et Canal+ en qualité de diffuseur. Pour que ce soit bien clair, Canal, Orange, Free, SFR, doivent payer pour les chaînes qu'elles diffusent. Et c'est sur cette facture, ces montants, que les deux ne parviennent pas à se mettre d'accord. La journaliste Céline Baïdarcourt, spécialiste des médias à France Info, était sur notre plateau au début de cette crise et elle anticipait déjà la décision du tribunal de commerce.
Elle demande uniquement à Canal de faire quelque chose. Elle n'a pas mis de coup de pression à TF1. À l'inverse de l'ARCOM, alors qui ne met pas du tout la pression, mais qui appelle les deux parties
à trouver un accord.
Exactement. Et qui joue les médiateurs. Mais personne ne peut contraindre ni l'un ni l'autre à régler le problème. C'est un litige commercial, en fait, entre un distributeur et un diffuseur. La loi n'a rien à voir là-dedans.
Plus récemment, c'est le patron de l'autorité de régulation, l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, qui veut qu'à l'avenir, pour les Français qui ne reçoivent la télé que via l'offre satellite, par exemple, il veut qu'à l'avenir, on puisse empêcher ces coupures de chaînes à faire à suivre donc Canal+.
Donc en attendant, il n'y a toujours pas de TF1
sur les chaînes, sur la plateforme Canal+.
Ouais. Sur la plateforme de Canal+.
Ni TF1,
vous
n'êtes
pas en zone blanche, Stéphane Séjourné.
Je ne suis pas en zone blanche, j'ai TF1, mais je vois bien le problème pour certains.
Mm-hmm. Ça ne vous regarde pas.
No comment.
Juste une petite question, vous êtes le nouveau patron de Renaissance qui est chargé de faire réussir le quinquennat mais aussi de désigner un candidat pour 2027. Il y a déjà beaucoup de prétendants, non?
Oui, enfin c'est un peu tôt quand même.
Mais il y a déjà des prétendants.
Y réfléchir en tout cas. Les modalités de désignation se feront après les européennes, donc plutôt 2024.
Donc rendez-vous en 2024. Merci beaucoup Stéphane Séjourné d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Basile Boli est notre invité du dîner et puis surtout on retrouve la chanson Enchantée de Sandrine Saroche et L'œil de Pierre bien sûr. À tout de suite.